J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi et merci de choisir parole aux auditeurs pour vous informer. L'ancien conseiller stratégique du président de la République a quitté la prison centrale de Makala le 27 septembre dernier après avoir été au centre d'un scandale de tentatives de corruption et de trafic d'influence avec certains investisseurs miniers non autrement identifiés. La justice congolaise a estimé qu'elle est incompétente pour juger notamment des faits qui se sont déroulés à l'étranger et a décidé d'accorder à Didier Chimanga la liberté provisoire. Alors pensez-vous que cela pourrait avancer ou ralentir les efforts des pays, du pays dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Mimi Kindou et Viviane Mounierikana concourent à la production et à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant de retrouver Alain Bolodjoa pour voir tous les aspects politiques, les contours politiques de cette affaire, nous accueillons en ligne Maître Willy Wenga pour en savoir un peu plus sur les questions de justice. Maître Willy, vous êtes avec nous?
Bonjour J.R. Lungembo, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors comment comprendre quelqu'un qui a été mappé et tout de suite, juste après, relâché? Est-ce que nous pouvons dire que la procédure, elle est normale?
Le nom lui-même l'indique, mappé, bon en fait c'est mandat d'arrêt provisoire. Donc lorsqu'on est poursuivi par le parquet et que le parquet considère qu'il faisait de vous des indices de culpabilité, et que d'autres conditions de la mise en détention préventive sont réunies, le magistrat instructeur peut décider de vous placer sous mandat d'arrêt provisoire. Le nom l'indique, mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire que le magistrat ne décide pas de votre condamnation ni de votre servitude pénale. Donc c'est encore provisoire, c'est encore au niveau de l'instruction où on peut arrêter, c'est aux fins d'enquête. L'arrestation au niveau du magistrat n'est pas une arrestation condamnation, c'est une arrestation pour raison d'enquête. Et le même magistrat qui sait pourquoi il a placé ce mandat d'arrêt provisoire, c'est le même qui, au regard des éléments en sa possession, a pouvoir d'apprécier si oui ou non, au regard peut-être des demandes formulées par la partie qui est en détention, sa demande de mise à liberté provisoire, si par exemple il faut continuer à le détenir ou il faut faire droit à sa demande de liberté provisoire. Et ces genres d'appréciation sont du domaine du magistrat. C'est prévu par la procédure, encore que la Constitution, à son article 117, considère la liberté comme la règle et la détention comme
l'exception.
Il y a fort à croire que le magistrat, en le faisant, n'a violé aucun droit, quand même que la population, le rumeur, le public, aimerait assez que qu'on puisse, lorsqu'on place son mandat d'arrêt provisoire, au regard des bruits, au regard des supposée infraction commise, on devait garder plus longtemps la personne interpellée et placer sous mandat d'arrêt provisoire, mais seul le magistrat lui-même a le pouvoir.
Oui, mais Maître Willy, dès lors qu'on sait, en droit, le procureur peut se saisir même des rumeurs.
Oui, même lorsque le procureur se saisit des rumeurs, ces rumeurs dont il s'est saisi, il doit enquêter sur les rumeurs et à un certain moment, il considère que ces rumeurs, quoique rumeurs, ne contiennent pas des éléments fondés, ou si ça contiendrait quelques éléments fondés, ces éléments ne sont pas suffisants. Mais il faut reconnaître, J.R. Lungembo et tous les auditeurs, qu'en décidant de placer, d'accorder une liberté provisoire, le procureur n'a pas encore dit si la personne est innocente.
Est innocent, oui.
L'instruction continue, sauf que la personne qui était en détention préventive comparaîtra en liberté. Ça, c'est purement juridique et judiciaire. Les autres considérations, peut-être politico-sociologiques, ne sont plus de mon domaine.
Alors, comment analyser la notion de l'incompétence des autorités judiciaires congolaises dans cette affaire?
La question de l'incompétence, c'est juste une création. C'est une création de la défense. Vous savez, lorsqu'on défend une partie, un citoyen, un individu devant la justice, la défense a tout le moyen à sa possession. Et la défense, c'est un jeu. C'est-à-dire, à la lumière de la loi, à la lumière de la jurisprudence, à la lumière de la doctrine, les défenseurs que nous sommes, chacun peut interpréter un texte à sa manière, et seul le magistrat a la définitive interprétation de la loi. Un avocat de la défense, comme un avocat de la demande, chacun peut interpréter la loi autrement et il n'y a que le juge qui est l'arbitre. Et toute interprétation qui a eu lieu autour de l'incompétence ou de la compétence sont des moyens de défense, lesquels moyens seront dits fondés ou non par celui qui est en train d'instruire, parce que celui-là aussi est obligé de lire la disposition invoquée par rapport à cette compétence-là. Mais l'impression que j'ai, c'est que ceux qui ont invoqué ces moyens pour la première fois, considérant que les juridictions congolaises ou les offices congolais sont incompétents par rapport aux faits qui seraient et en train d'être poursuivis, je pense qu'ils doivent avoir fait une mauvaise interprétation de ce texte de loi.
Voilà, Maître Willy Ewenga, merci d'avoir accepté de nous éclairer quant aux aspects judiciaires ou juridiques, comme vous l'avez dit, sur cette affaire. À très bientôt, Maître Willy.
Merci beaucoup de m'avoir associé pour ce moment. Et je pense que le débat continue, c'est un débat de droit. À toute occasion dont vous aurez besoin de moi, je serai là.
Merci beaucoup, Maître Willy. Alors, on va poursuivre pour voir un peu les aspects politiques avec vous, Alain Bolodjoa. Vous êtes avec nous et aujourd'hui pour en parler. Quelle est votre lecture, Alain Bolodjoa? Bonjour. Alain Bolodjoa, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Alain Bolodjoa. On prend Peter Mabudi. Peter Mabudi, vous êtes avec nous. Bonjour, Peter.
Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour à tous les aides de la radio Capi. Je salue Maître Willy Wenga, bien qu'il vienne de nous laisser, Monsieur Gilles.
Voilà. Quelle est votre contribution dans cette émission, Peter?
Monsieur Gilles, moi, je pense que le droit dont notre État possède doit aussi reconnaître les droits des autres, des droits humains. Monsieur Vidi Chimanga, qui était conseiller du chef de l'État en tant qu'ancien, je pense que du fait que jusque-là il bénéficiait de la présomption d'innocence, monsieur Juillet, la liberté provisoire lui accordée vaut son pesant d'or. Bien qu'il soit politique, monsieur Juillet, et jusque-là, du fait qu'il n'y a pas eu des enquêtes menées pouvant amener le juge à lui rendre coupable par rapport à cette vidéo qui a fait la toile, monsieur Juillet, je pense qu'il devrait bénéficier de la liberté provisoire du fait que les enquêtes continuent pour savoir si nécessairement il en fait partie pour qu'il soit condamné ou acquitté définitivement. Mais sur les aspects de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, M. Juillet, je pense que c'est une avancée significative parce que nous ne sommes plus dans les régimes où nous avons connu des intouchables, où les conseillers, j'ai dit bien conseillers du chef de l'État, les directeurs des cabinets du chef de l'État, certains ministres aujourd'hui interpellés par la justice, voire même condamnés, monsieur Juillet, c'est un acte qui contribue à la bonne gouvernance. Parce que la gouvernance, monsieur Juillet, commence par la tête. Quand la tête est biaisée, obligatoirement la suite doit suivre. Et l'exemple déjà prouvé actuellement par le régime actuel prouve à suffisance que nous sommes sur la bonne marche de la gouvernance du pays et surtout également de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la population congolaise participe à la gestion du pays à partir des informations mises à notre disposition concernant la présidence, concernant les institutions du pays, M. JR. Je pense que cette interpellation, cette liberté provisoire, bien qu'elle soit provisoire, nous attendons l'acquittement ou la condamnation après les enquêtes qui seront menées par les magistrats instructeurs du dossier.
Voilà, merci beaucoup.
Et également, oui. Et également, je voudrais encore ajouter un aspect. L'aspect, c'est la politisation des dossiers. Bien qu'ils soient politiques, mais on ne peut pas amener tout débat dans les aspects politiques. Nous devons aussi avoir l'aspect juridique et aussi analytique du dossier.
Oui, mais Peter, mais quand on regarde maintenant la réaction de la population, vous avez dit il y a des avancées, le fait que des autorités, même celles qui se retrouvent dans le sillage du chef de l'État, qui sont interpellées, mais entre-temps, ils sont libérés. Et ça donne l'impression, en tout cas pour certains qui nous ont écrit, que la justice est en train de souffrir. C'est à deux poids deux mesures, en fait.
Non, monsieur Jure, il n'y a pas un opposant qu'on a arrêté. Si c'était qu'il y a des opposants.
Pas seulement des opposants, mais ceux qui ne représentent rien, au fait, dans la société.
Oui, nous faisons partie de la société, mais en tant que membre de la société, monsieur Jure, nous devons analyser les faits. Sur le plan politique, sur le plan sociologique et sur le plan économique du pays. Et aussi, surtout, sur la gouvernance du pays. Et surtout qu'ils soient acteurs politiques, c'est là où les gens s'écartent même de l'aspect juridique. Nous avons une justice, M. J.R., que nous devons louer par rapport aux avancées. Aucun politicien qui était au sillage du chef de l'État des régimes précédents qui devrait faire objet, surtout des débats comme ça, comme nous le débattons. Un conseiller, un directeur de cabinet, on débat sa situation et voire même arrêté dans la prison pour des faits de corruption. Ce sont des
voilà, donc si je comprends bien par rapport à la question du débat, vous pensez qu'il y a des avancées dans les efforts, consentis par le pays dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance?
Oui, mais c'est clair, il y a des avancées, parce que l'exemple commence par la tête.
Merci
quand
beaucoup.
On arrête un conseiller du chef de l'État, on
merci,
arrête...
Merci, merci beaucoup, Peter. Minutes. Alors, je crois ligne de notre invité, Alain Bolodja, s'est améliorée. Alain Bolodja, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Alors, quelle lecture faire de l'arrestation de Vidi et Chimanga, et tout de suite libéré, et à qui on a accordé d'ailleurs la liberté provisoire?
Oui, en tout cas, il faut reconnaître que le pays va très mal. Le pays va très mal et fort malheureusement, le fanatisme semble ne pas pousser à nos frères de voir les choses telles que nous le voyons. Premièrement, ce n'est pas la première fois de voir des autorités être arrêtées. Voyez-vous, il vous souviendra déjà en 1960-61, il y a eu un premier ministre qui était arrêté par le système. Il a été tué et nous savons comment nous sommes condamnés aujourd'hui à porter la responsabilité. En 1966, nous avons connu la même situation. Avec Kimba Bamba Mamba et Anani, ils ont été tués et nous savons que la justice donnait toujours l'impression d'avoir raison. Mais si vous entrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que le plus grand problème du Congo, c'est la politisation de l'appareil judiciaire. Alors qu'en réalité, au regard de la philosophie constitutionnelle, il y a une institution qui est supposée être apolitique. Ce sont le cours des tribunaux. Et fort malheureusement, nous sentons que le cours des tribunaux n'ont pas le main libre. Ils ont le main lié. Ils sont au service des individus. Et chaque fois qu'il y a un régime qui arrive, chaque fois qu'il y a un pouvoir qui a le contrôle de l'appareil financier, eh bien nous sentons que la justice est au service de cet individu-là. Et ça dérange. J'ai suivi nos amis, et surtout notre premier concitoyen qui a pris la parole, le juriste. Il a voulu nous faire croire que c'était de bon aloi, c'était une bonne pratique, lorsqu'on arrête quelqu'un et après qu'il soit relâché par la suite.
Oui, mais pour mettre à Willy Wenga, le droit a été dit. Parce que la détention, c'est la règle et la liberté, c'est une expression. C'est l'exception.
Ça, ce sont de faux fuyants, justement, parce qu'il n'a pas voulu intégrer toutes les variables explicatives. Avant qu'une personne ne soit arrêtée, le procureur a toute la latitude de voir s'il est poursuivable ou pas. Ce n'est pas le fait seulement qu'il soit arrêté et relâché, non. Comment ceux qui prétendent avoir la maîtrise du droit, pouvaient se permettre d'arrêter quelqu'un alors qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour le relâcher par la suite? L'exception dont on parle de l'arrestation, c'est justement ça la philosophie.
Oui, parce que quand je vous entends parler, faites-vous allusion au ministère public lors du procès des Caméré qui avait dit l'inculpation grave pèse sur les détenus. Et souvent, en amont, le procureur a toutes les informations, selon vous.
Non, mais effectivement, ils doivent prendre tout le temps d'analyser le dossier avant de procéder par le mandat d'arrêt provisoire. Voyez-vous, on ne doit pas nous donner une justice cosmétique. Et on voit des gens être arrêtés et par la suite être relâchés. Pourquoi n'avoir pas pris beaucoup de temps de voir quels sont les éléments qui pouvaient justifier l'arrestation? Que l'arrestation n'intervienne pas en amont pour que le raisonnement ou la réflexion se fasse en aval.
Oui, mais je crois que vous êtes quand même politique, Alain Bolodjoua. Savez-vous quels sont les éléments qui sont pris en compte pour qu'on arrive à mapper quelqu'un? C'est vrai, quand la fuite est à craindre, il y a d'autres éléments également qui sont considérés.
Non, mais bien évidemment, on regarde d'abord la sensibilité du dossier. Parce que lorsqu'on a arrêté M. Didier Tshimanga, nous nous pensons, c'est par rapport aux déclarations faites dans la vidéo. Vous, on voyait le fait qu'il voulait rançonner les investisseurs, le fait d'avoir la promotion des antivaleurs et le fait d'avoir taxé peut-être M. Félix et qu'il est incapable de prendre seul des décisions et celui qui serait à la base de toute cette manipulation. Ce sont là les faits pour lesquels il serait arrêté. Donc, lorsque là, il y a clameur publique, le procureur ne peut pas seulement avoir le réflexe d'arrêter. Il devait plutôt prendre le soin d'approfondir, parce que lui n'est pas dirigé par les émotions du public. Il doit plus prendre le temps de voir si effectivement ce que la population reproche à la personne, c'est un fait infractionnel. Et s'il y a assez de temps, c'est en ce moment-là qu'on procède à l'arrestation. Parce qu'il y a une dimension sociologique.
Donc vous pensez que tentative de corruption, c'est un indice de culpabilité sérieux?
Non, mais bien évidemment, parce que la Constitution en a érigé en crime. Un crime grave.
La corruption, oui, mais pas la tentative de corruption.
Non, mais attendez, c'est ce que je dis. Y a-t-il seulement la tentative de corruption? Parce que lorsque vous voyez la configuration de dossier tel que présenté, il y a une dimension où on sent que la personne use de sa fonction pour gagner contre les intérêts de la République.
Le trafic d'influence.
Vous lisez l'article 164, 165, 166. La corruption, les détournements, les délits d'unité sont des faits infractionnels qui sont condamnés par la Constitution. Mmh. Et là, c'est en charge de la personne du président de la République. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont aux alentours du pouvoir, tous ceux qui font partie de l'institution président de la République, ne peuvent pas agir dans le sens contraire à la Constitution. Parce qu'il peut y avoir un lien entre la personne qui pose l'acte et la personne qui assume la fonction du président de la République. Le caractère essentiel de la fonction du président de la République. Ce qui veut dire que ses collaborateurs sont soumis au même protocole. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui entrent en contact avec des éventuels investisseurs au nom de la présidence, qui cherchent à rançonner ceux qui veulent investir chez nous. Ça ternit l'image, non seulement de l'institution, mais aussi du pays. Ce sont des faits infractionnels. Ça viole aussi la loi morale. Il faut que les membres de la présidence soient des modèles.
Alors, si je peux évoquer un cas de jurisprudence, c'est vrai, sous réserve de juristes, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, celui qui était en tête de cette agence, disons, qui a été nommé en premier, a été attrapé en flagrant délit pour une négociation, une tentative de corruption avec l'Access Bank à l'époque, et les chefs de l'État l'avaient mis de côté. Est-ce que cet exemple ne pouvait pas servir de jurisprudence pour les magistrats dans ces dossiers? Mais une chose est vraie que Maître Willy nous a dit, la liberté provisoire ne veut pas dire que le dossier est clos.
Non, mais ça, c'est ce que lui veut nous faire voir. Mais j'insistais sur la dimension sociologique. Pourquoi? Vous savez tous que la justice est le dernier rempart. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec X ou Y, on doit tous recourir auprès de la justice. La justice a le rôle de garantir le droit des libertés, mais aussi l'égalité. C'est ça la philosophie que
voilà. Alors, Alain Bolodjoa, si vous le permettez, on va ouvrir les standards et accueillir d'autres auditeurs, à part Peter qui venait de parler tout à l'heure. On va prendre Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Votre réaction?
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord commencer par rappeler les principes sacro-saints du droit qui dit justice est rective, justice est fautive. Alors, c'est un principe qui veut que lorsqu'il y a une action judiciaire qu'on a ouverte et qu'il n'y a pas un aboutissement, je crois que ça frise déjà un problème. Alors, de ce fait-là, considérant cette sagesse populaire, la justice congolaise est à double vitesse et elle est en plein exercice de l'autoflagellisation dans ses instructions des dossiers, dans ses instructions des litiges. De cette façon de faire les choses, les décisions, nous les constatons que les décisions judiciaires dans notre pays sont devenues des tigres à papier, alors que le pays ici, la RDC, se veut un état de droit, un pays qui doit disposer des institutions judiciaires efficaces et assez punitives, en fait que la démocratie dont nous avons comme système politique soit réellement au rendez-vous. Nous sentons quand même que c'était ahurissant, c'est quelque chose qui sort de l'entendement humain, de voir tout un fleuve de sorties massives de criminels, de présumés criminels, qui ont été arrêtés pour des faits qui sont des infractions qui sont réellement accablantes, des infractions qui ternissent l'image de la nation, des différents programmes que l'État est en train d'initier pour le bien-être de la population. Et tous ces criminels-là, aussitôt qu'ils sont dans la prison, ils sortent avec des mises en liberté provisoires qui ne sont que des faux fuyants. Moi, je dirais des faux fuyants parce que les conditions pour accorder des mises en liberté provisoires ne sont même pas remplies. Si nous pouvons le dire clairement, il ne s'agit que des manipulations politiques, des machinations politiques pour que ces gens-là échappent justement à la rigueur de la loi. Et cette façon de faire les choses.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Paul, il y a beaucoup de gens qui attendent. On va reprendre Confiance qui est à Kinshasa. Confiance, bonjour.
Bonjour Mbote, Djambo et Moyo à tous les Okapistes de la Radio de la Paix.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ces niveaux d'échange?
Bon, en fait, dans cette histoire, il y a à boire et à manger, hein. D'abord par le fait qu'on n'a jamais réussi à nous expliquer la différence entre les rétrocommissions et la corruption. Mmh. Nous savons tous que toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Mais ce genre de comportement peut porter un discrédit sérieux sur notre justice. Le problème de la corruption en RDC est devenu un fléau. Il a toujours été un fléau depuis des décennies d'ailleurs. Ce n'est pas maintenant que nous allons parler de ça, bien que le pouvoir actuel se bat bec et ongle pour essayer de l'éradiquer. Mais les pratiques sont devenues même institutionnelles. Hein? Quand je dis bien que le pouvoir actuel se bat pour l'éradiquer, nous devons savoir que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Et il affecte tout le secteur et tout le niveau.
Mais alors comment comprendre l'existence d'une agence de prévention et de lutte contre la corruption qui est sous le coupole de la présidence de la République et qui travaille sous les labels de la présidence de la République, mais au sein de la présidence de la République, il y a des indices de culpabilité sérieuse contre certains staffs de la présidence de la République, notamment pour tentative de corruption.
Il y a juste un problème de... La solution, c'est le changement de mentalité, c'est-à-dire le choix même des personnes qui sont à la tête de ces institutions-là je ne pense pas qu'ils donnent le meilleur de d'eux-mêmes. Nous pouvons voir seulement ce qui est fait par l'IGF. Le non seulement d'Alinguet qui fait trembler les gens. Vous voyez, c'est un problème de soi. Dans le choix des personnes qui doivent animer des institutions comme celle-là, nous devons aller, comme les autres le disent, aller dans la Bible. Hein, respecter les trois éléments qui font qu'on ait un bon dirigeant. C'est-à-dire, ils doivent être des bons, bonne moralité, quelqu'un qui sait suivre la loi, ainsi de suite. Mm-hmm. Mais la loi elle-même est en train aussi de protéger ceux qui font du mal. Parce que cette histoire-là de liberté provisoire, comme mes prédécesseurs l'ont dit, n'est qu'un faux fuyant. Parce qu'en réalité, ce dossier-là va être clos. Nous n'aurons même pas cette suite-là. Il n'y a même pas cette redevabilité-là. C'est ce qui fait un peu mal. Vous voulez savoir, quand je dis tous les secteurs de la vie actuelle, vous voyez sur la voie publique quelqu'un qui est dans une infraction sur la route, et qui donne l'argent aux policiers, et on trouve ça normal.
Il y a même un auditeur qui nous a proposé un sujet de parler un peu sur l'ordre public. C'est quoi l'ordre public?
Il faut qu'on puisse voir comment est-ce que les gens font la prison à cause d'une telle chose comme ça. Et puis la sensibilisation de la population. Une autre chose qui fait mal, c'est-à-dire là où on doit en principe payer les amendes, ces amendes-là sont exorbitantes. Moi je voudrais par exemple partir d'une contravention routière. On attrape quelqu'un, on lui dit, bon, paye 10 000 francs à la banque avec la note de perception et consomme. Moi, je pense que ce sont des choses qui vont faciliter les choses.
Merci beaucoup, confiance.
La corruption donne une très mauvaise image de notre pays. Oui. Même si on arrive à prouver qu'il n'a pas été corrompu, mais l'image est salie. L'image est salie, on ne sait pas laver ça du revers de la main.
Merci beaucoup, confiance d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre bienvenue, et qui est également à Kinshasa. Bienvenue, bonjour. Bienvenue, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole, quel est votre avis?
Oui, hier, un débat hautement juridique, malheureusement, Maître Wenga est parti. Quand il a essayé un peu de faire son dépôt, il a expliqué que la liberté est un droit garanti, l'arrestation est une exception.
La détention, c'est la règle, et la liberté, c'est une exception.
La liberté, c'est la règle, la détention,
c'est une exception.
Mmh. Oui, j'allais dire, quand on parle de la présidence de la République, dans la tête, il faut se dire que c'est la toute première institution de notre pays. On a vu, vous avez si bien évoqué celui qui a été nommé à la tête de l'institution qui s'occupe de quoi? De la corruption. Lui-même, il a été trempé dans les histoires de la corruption. Quand la justice de notre pays, moi je me dis, depuis que le président Félix, il y a des jurisprudences qui se prennent dans notre pays, je crois que ça va avoir de discuter un homme pour l'avenir de notre pays. Quelqu'un en train de négocier les pourcentages, si bien que cela s'est passé à l'extérieur de notre pays. Mais on voit la présence de la République, c'est l'image d'abord de notre pays qui est ternie. Comment la justice peut se dire, voilà, elle est incompétente de décider sur un tel dossier? Est-ce que, si cela est vrai, les investisseurs, les vrais investisseurs qui sont à l'étranger apprennent cela, qu'est-ce qu'ils vont se dire de notre pays? C'est un pays où la corruption passe partout. Est-ce qu'ils seront vraiment en sécurité en émettant leur argent pour investir dans notre pays? C'est quand même, donc, c'est quelque chose qui est en train de ternir l'image de notre, je crois, il y a beaucoup à faire avec notre justice.
Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Alors, on va prendre Kalo Kaloji, qui est à Mbujimayi, avant de retrouver à nouveau notre invité, Alain Bolojoa. Alors, Kalo Kaloji. Kalo?
Allô, messager, bonjour et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole.
Je pense qu'on doit d'abord se poser la question comment ces gens-là se retrouvent à la présidence de la République. Moi, je trouve que dans ce pays, la complaisance plane. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que quand vous prenez vos amis, vous prenez vos oncles et vos beaux-frères, vous les mettez, ils vous considèrent comme vos amis. En tout cas, je sais que ceux qui vont faire, c'est toujours de tels actes qu'ils vont poser. Vous savez que dans ces pays, même quand il y a un autre qui a parlé, Peter, qui a dit que le temps de l'intouchable a pris fin. Moi, j'ai dit non. Il y a toujours un mécanisme qu'on est en train de faire. Si moi qui vous parle, je suis fautif avec de tels comportements, je sais que je serai arrêté. Il n'y aura pas les libertés provisoires. Ici, moi, je me dis, la présidence de la République, comme vient de dire notre ami, c'est la tête de notre pays. Si aujourd'hui on se laisse faire par de certains comportements comme l'a fait notre ami là, Vidit Manga. Moi, je me dis, nous sommes dans quel pays? Après tout, c'est un pays qu'on doit respecter. S'il est arrêté, après un moment, vous allez sentir que non, il a des malaises. Vous vous rappelez que quand on a arrêté même le directeur de cabinet, on a arrêté des ministres, vous savez qu'il y a après quelques jours...
Donc vous estimez que c'est des faux fouillants?
Non, mais...
C'est des maladies imaginaires qu'on évoque pour obtenir la liberté provisoire.
Même quand il va suivre... Non. Quand il y a clameur publique, monsieur Gilles, je m'excuse, quand il y a clameur publique, moi je me dis, il doit d'abord fouiller avant d'arrêter monsieur. Mais l'arrêter aujourd'hui, nous dire que non, peut-être il est malade, on doit le relâcher, il va aller en Europe, tout ça, tout ça. Moi, je me dis vraiment, nous sommes dans quel pays? Après tout, la complaisance plane dans notre
merci
appareil
beaucoup.
Judiciaire, que ce soit au niveau de
merci.
La présidence. Moi, je dis que
merci.
C'est
merci. L'amitié. Merci beaucoup. Merci, Kalo. Alors, Alain Bolodjoua, vous avez écouté les uns et les autres. Quelle est votre réaction, Alain?
Oui, en tout cas, j'apprécie la pertinence de nos concitoyens. Ce qui est vrai, c'est que les juristes doivent apprendre que le droit n'a de sens que dans une société. Voyez-vous? Si on ne sait pas intégrer la dimension sociologique dans le raisonnement juridique, on est perdu. Parce que la loi vient réglementer ou réguler un secteur donné. C'est ça le problème. Nous avons voulu assez que la fonction du président de la République soit mise sur le piédestal. Justement parce que nous voulons qu'il soit un modèle. Et en tant que modèle, il ne peut être entouré que par des gens qui sont pétris de valeurs. Mais lorsqu'il y a des soupçons sur les soupçons de corruption, de délits d'unité, de détournement de fonds au niveau de la présidente, eh bien ça va à l'encontre de la philosophie de notre société.
Mais comment comprendre ce paradoxe? Au sein de la présidence de la République, il y a une agence de prévention et de lutte contre la corruption et des cas comme ça qui sont déclarés dans la même institution.
Non, mais justement parce que ce qu'on nous présente est du cosmétique. Je vous donne juste un cas. Il y a un conseiller spécial à M. Félix Tshisekedi qui était cité pour le manque à gagner ou le détournement de 20 millions de dollars avec, dans le dossier, comment on l'appelle, la banque qui est juste à côté de...
Access Bank. Access Bank.
Il a été cité. 20 millions de dollars. Il a été cité dans la vente de carrés miniers au niveau de Haute-Ouélé. Il n'a pas été inquiété. Mais qu'est-ce qui s'est fait en réalité? Nos juges ne sont pas suffisamment...
Mais s'il n'a pas été inquiété, c'est qu'il n'y a pas de preuve de culpabilité. Il n'y a pas d'indice de culpabilité sérieux.
Non, mais voilà. S'il n'y a pas de preuve de culpabilité pour lui, il n'est pas inquiété. Mais s'il n'y a pas de preuve de culpabilité pour Vijay Chimanga, il a été arrêté et relâché. Là, pourquoi alors pour le dossier Jimmy Kitenge, qui est du PPRD? Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de soubassement, mais il est toujours en prison. Ce qui veut dire que les juges dépendent de ceux d'humeur de la classe politique. Et c'est quand même décevant. Nous voulons assez que, quelles que soient les raisons, avant que quelqu'un ne soit arrêté, le procureur doit se rassurer d'avoir assez d'éléments. Parce qu'à force de libérer les gens qui sont autour de M. Félix Tshisekedi, ça donne l'impression comme si la justice est incapable de les juger. Et ça démotive, ça réduit le
problème. Alors, est-ce que soutenez-vous ce que venait de dire Kalo Kalogi, que la complaisance sera un élément qui constituera un frein pour les efforts consentis dans la lutte contre la corruption en RDC?
Non, il n'y a pas d'efforts consentis. C'est du pipeau, c'est du vent.
Mais comment vous dites c'est du vent? Aussi longtemps qu'il y a l'IGF, il y a l'Appel C, il y a tant d'autres structures qui travaillent dans ce sens-là.
Non, je ne pense pas qu'il y a des gens qui travaillent dans le sens de lutter contre la corruption. Dès lors que nous voyons la présidence de la République qui prend des initiatives en dehors du cadre institutionnel, ça ce sont des décisions privées, et qui voient aussi certaines réalités. Parce que depuis que nous avons commencé, un seul ministre qui sont cités dans des sales dossiers. Et puis au niveau de la présidente, Dieudonné Lobo, monsieur, comment il s'appelle, le conseiller spécial sur les questions économiques et financières, il a été cité. Vous prenez celui qui était chargé de la compétition là de, comment on appelle...
Oui, être cité et avoir de preuves de culpabilité, c'est deux choses différentes.
Ah, mais effectivement, lorsque la justice est saisie des dossiers, lorsqu'il y a clameur publique, voilà pourquoi je contredis. C'est que
Maître Willy.
Vous avez dit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans ce logique-là, avant de procéder à l'arrestation, il faut veiller sur la possession des éléments qui voudrait assez que la liberté soit la règle et la notation l'exception, vous violez ces principes-là. Nous, nous pensons, le problème, c'est que la justice n'est pas assez indépendante. Je vous donne juste un autre cas. Lorsqu'il y avait clameur publique par rapport au dossier de M. Kalev, l'UDPS et allié ont réagi. Ils voulaient à tout prix qu'il soit arrêté. Il est ici à Kinshasa. Mm-hmm. Il s'est déclaré non-lieu, je crois, dans quelques heures. Mm-hmm. Parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments. C'est-à-dire qu'on nous brandit une justice alors qu'en réalité, il n'y a pas de sanction. Monsieur Kamere était arrêté. On nous a dit que c'est la première fois de voir un directeur de cabinet être arrêté. Il a été relaxé, il a été acquitté. Ce qui veut dire qu'on nous vend du vent. Ce n'est pas ça la justice.
Voilà.
La justice, il y a réparation. Il n'y a pas réparation. Et chaque fois, lorsqu'on arrête des gens, on se rend compte que la justice est orientée par les politiques. Si vous prenez les opposants restent en prison et là, il n'y a pas de problème. Vous prenez, il y a un jeune, Luc Molokwe de l'ECID. Il a été arrêté pour avoir fait des déclarations. Depuis le 75 jours à l'année, il est maintenant en prison. Personne n'en parle. Jimmy Kitenge, je l'ai cité, il est encore là. Vous prenez Barnabé Wimana, il est encore là. Et tant d'autres jeunes qui sont là. Pourquoi la justice s'applique seulement pour ceux qui sont vulnérables et pas pour ceux qui sont au pouvoir?
Voilà. Allez, Bolodja, on va écouter également deux autres auditeurs et puis on reviendra à vous. Emmanuel, vous êtes à Lubumbashi. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange citoyen?
Merci. J'apprécie beaucoup les interventions des amis qui nous ont précédés. C'est sûr que dans ce dossier, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique et l'aspect juridique. Ils ont abordé le fait par rapport à l'aspect politique. Moi, j'interviens en qualité d'officier de police judiciaire. C'est pourquoi je voulais apporter des lumières par rapport à l'aspect judiciaire. Le parquet travaille dans la phase préjuridictionnelle. C'est-à-dire le magistrat du parquet est en train de rechercher les infractions, d'arrêter les auteurs des infractions. Et au cas où c'est nécessaire, il est de faire devant le juge pour qu'il soit jugé. Alors, en tant que ministère public, il a encore le devoir de qualifier les faits, requalifier les faits et même disqualifier les faits. Certes, le parquet a été saisi, je ne sais pas par quelle voie, par rapport au dossier Chimanga. Il appartenait au ministère public d'enquêter sur le dossier et sur quel fait, l'infraction de corruption. Or, juridiquement, une infraction renferme trois éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Dès lors que ces éléments font défaut, le ministère public ou celui qui instruit les dossiers a le devoir soit de disqualifier les faits, soit de les requalifier. L'infraction de corruption suppose qu'on doit avoir en présence deux parties. La partie qui a voulu corrompre les corrupteurs et la partie corrompue via celui qui a été corrompu. Vijay Chimanga a été présenté comme celui qui devait être corrompu. Bien sûr, toute tentative d'infraction est punie de la même manière que l'infraction elle-même. Mais nous avons compris que celui qui a suivi le dossier a compris qu'il y a des éléments qui manquaient. Jusqu'à présent, on ne nous a pas présenté qui est le plaignant dans ce dossier. On ne nous a pas présenté qui est le corrupteur dans ce dossier.
Est-ce qu'à ce niveau, fallait-il se référer simplement à la clameur publique ou il fallait qu'il y ait vraiment un plaignant? Est-ce que le ministère public ne devait pas se saisir de cette affaire?
Oui, il s'est saisi quand il lui a accordé une liberté provisoire. C'est pour dire que les enquêtes sont encore en cours et que certains éléments font défaut. Nous devons avoir encore le corrupteur pour voir l'intention. Et
donc, si les corrupteurs ne se présentent pas, parce qu'il s'agit des investisseurs miniers non autrement identifiés, c'est-à-dire des gens qui ont piégé et le compatriote.
Non, j'ai l'entreprise qu'on a citée, je ne sais pas citer les noms ici, c'est une entreprise qui évolue en RDC depuis 5 ans. Alors, on devait aussi poursuivre les corrupteurs.
Donc, il faut qu'on puisse poursuivre les corrupteurs.
Exactement. C'est pourquoi je dis que cette liberté provisoire peut être justifiée en attendant que le ministère public continue avec les enquêtes parce qu'on ne saura pas arrêter les corrupteurs.
Les corrompus sans
l'absence du corrupteur.
Voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir contribué dans cette émission depuis Lubumbashi et nous rappelons que vous intervenez comme disons un OPJ, hein, c'est comme ça que vous avez dit, hein. Voilà, merci beaucoup. Alors on va prendre également Étienne. Étienne, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, bonsoir Julien, et bonjour à tous les auditeurs.
Depuis Kikuit, vous intervenez. Quelle est votre contribution?
Oui, mon estimé compatriote, vous savez que la corruption, c'est un fléau dans notre pays. Mm-hmm. C'est un fléau qui s'est alors enraciné depuis belle durée et que nous ne pouvons pas en finir rien qu'avec l'avènement du régime Tshisekedi. Mais, le problème est celui de lucider d'abord le problème de vidéo qui m'en a tel que vous l'exposez. Il y a un problème de moralité qui s'impose. Et ce problème de moralité constitue une infraction lorsque nous voyons un proche, n'est-ce pas, du chef de l'État, faire le trafic d'influence au nom du chef de l'État par une vidéo balancée dans les réseaux sociaux. Donc, même si, comme notre estimé compatriote Emmanuel vient de l'éclairer, qu'il faut qu'il y ait le corrupteur, mais du moins seulement l'élément moral tel qu'il décrit l'infraction, l'élément moral porte atteinte, n'est-ce pas, à la structure qui incarne la clé de voûte de toutes les institutions. Normalement, la liberté provisoire qui lui est concédée ne dit pas où comme veut le
oui, mais tel que j'ai compris, Emmanuel, il n'y a pas que la question de la moralité et la légalité là aussi, parce que c'est la loi qui condamne celui à qui on tente de corrompre de la même façon que le corrupteur. Parce que oui, c'est ça là l'autre loi.
C'est ça que je suis en train d'évoquer, que lorsque on voit un proche du chef de l'État faire des trafics d'influence sur sa fonction, exposer l'institution première de la République, c'est-à-dire c'est déjà une infraction, le trafic d'influence. Mmh. C'est déjà une infraction. Mais seulement je voulais ici apaiser les ardeurs de notre compatriote Alain Bologia, qui autrefois, lorsque je co-débattais avec lui dans ce genre d'émission, il défendait beaucoup plus le régime passé, qui du reste n'avait pas déféré sur le plan judiciaire ceux qui animaient les institutions à l'époque. Aujourd'hui, c'est une plénière où nous voyons les personnes qui travaillent au niveau, aux instances supérieures, être déférées à la justice. Mais c'est vrai qu'il faut noter aussi, il faut noter que le traitement de ceux qui doivent administrer la justice dans notre pays n'est pas au rendez-vous. Lorsque vous voulez que dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait un pouvoir qui arrête le pouvoir et que les trois pouvoirs sont concurrentiels et que l'appareil judiciaire reste le cadet des soucis, n'est-ce pas, des politiques, lorsqu'on nomme un magistrat, il entre dans un bureau, c'est à lui seul de s'acheter une chaise, c'est à lui seul de s'acheter un bureau, une table. Alors comment peut-il, lui, administrer le droit convenablement lorsqu'il est devant un dossier où quelqu'un qui est présumé coupable masse des millions de dollars. C'est fort difficile que ces messieurs-là se comportent. Donc nous devons tous concourir pour qu'on puisse mieux traiter nos magistrats, appliquer de la rigueur sur les magistrats qui sont corrompus, et tous ensemble, ce n'est pas une histoire de condamner un camp comme un autre, nous devons militer pour que l'appareil judiciaire soit bien traité, au même diapason que...
Voilà, donc ça relance les débats sur les réformes amorcées au niveau de la justice et autres services de sécurité. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé des Kikuit. On va prendre, je crois, un autre qui nous a appelé de Lubumbashi, Henri Mbouy, vous nous avez rejoint. Bonjour Henri.
Bonjour, bonjour, merci monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs de la radio Capri.
Quelle est votre position?
Moi, ma position d'abord, je vais d'abord parler sur la situation qui s'est faite. Il faut d'abord connaître celui qui a pris la vidéo, qui a fait cet appel pour prendre la vidéo avec les conseillers du chef de l'État. Il avait quelle intention envers le pays? Il avait quelle intention envers le gouvernement qui est en train de fournir des efforts, ou bien le chef de l'État? Depuis son arrivée au pouvoir, vous allez constater qu'il y a des avancées significatives que même les communautés internationales est en train de d'apprécier. Mmh. Il y a eu même récemment des rapports des
institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale.
Oui, oui, la Banque mondiale, les gouvernements américains qui appréciaient qu'il y a des avancées depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir. Le régime actuel est en train de fournir des efforts, les gouvernements en général. Par rapport à ça, j'aurais aussi souhaité que nos auditeurs puissent vraiment donner aussi des témoignages.
à ce qui s'est passé au régime passé. Il n'y a jamais eu même un conseiller du chef de l'État, même un directeur de cabinet, même un ministre qui a été interpellé. Mais avec le gouvernement actuel, même si on interpelle, même si on parvient à donner des libertés, mais il y a déjà des avancées. Et ce sont des choses qui montrent qu'aux jours à venir, il y aura des bonnes choses que nous pouvons espérer tous pour la justice de ce pays. Le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé des magistrats corrompus qui continuent jusqu'alors à travailler. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien.
Oui, on vous écoute.
Oui, des magistrats là qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais il revient encore à un travail au chef de l'État pour comment à parvenir à améliorer la justice de ce pays.
Il voilà, là encore, vous relancez les débats sur les réformes à amorcer.
À travers
merci.
Oui. La contribution de toute la population.
De toute la population. Merci beaucoup, Henri Bouy, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va accorder la parole à Maître Edmond, qui est à Kinshasa, je crois, pas à Mbandaka. Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur Gier. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous n'êtes pas en Mbandaka. Et j'annonce déjà que dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons produire une émission spéciale en Mbandaka. Et on sera également du côté des Kananga. Pour un parole aux auditeurs spéciales. Vous avez la parole, Maître Edmond.
Oui, bon, monsieur Gier, ce qui concerne les dossiers de monsieur Vidi et Chimanga, je pense que nous devons se rassurer que, comme celui qui m'a précédé vient de le dire, il y a beaucoup d'avancées dans le sens de la promotion de l'état des droits. Je pense que même dans le régime passé, il serait vraiment difficile de voir un conseil du chef de l'État, de voir un directeur de cabinet, ministre, se présenter devant la barre ou devant les centres judiciaires. C'était pas vraiment facile. Je pense que c'est une chose à féliciter. Je pense qu'on doit se rassurer ici sur deux faits dans les dossiers que nous examinons. D'abord, le premier point évoqué par le magistrat qui soutient à tort que les faits commis par, entre guillemets, les présumés faits, parce que ce sont les présumés faits commis par M. Chimanga, ont été commis à l'extérieur du pays et la justice congolaise n'est pas compétente. Et puis, en deuxième lien, c'est la question de la liberté provisoire. Pour le premier point, je pense que La réponse est donnée à l'article 3 du code pénal. Et le code pénal est clair. Toute personne qui, hors du territoire de la RDC, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de sévices pénales de plus de 2 mois, peut être poursuivie et jugée en RDC. Et l'article 2e, l'alinéa 2e prévoit que les poursuites ne peuvent être engagées que sur la requête du ministère public. Et vous allez voir que les premières infractions qu'on a reprochées à M. Chimanga, c'est d'abord les trafics d'influence et la corruption. Je pense que les infractions sont punissables de plus de 2 mois. Donc pour ça, ce n'est pas un débat, parce que la justice congolaise est vraiment compétente sur le plan personnel. Et voilà, monsieur a été retrouvé au Congo. Donc pour ça, c'est vraiment un alibi. Ce n'était pas un argument qui est fondé. Je pense que l'argument qui devrait fonder la liberté provisoire de M. Chimanga, c'était sur base de l'exactitude des faits. Parce que les gens doivent savoir que le procureur, lorsqu'il interprète, il n'est pas là pour cautionner les populismes. Le procureur instruit à ça via des charges. Lorsque le procureur constate que les faits auxquels on reproche à un inculpé sont minimes ou n'ont pas de fondement juridique, automatiquement le procureur va devoir soit se classer sans suite, soit accorder une liberté provisoire pour lui permettre encore d'avancer les faits. Donc c'est cet argument qui peut tenir que on a accordé la liberté provisoire à M. Chimanga. Parce que la liberté provisoire, les gens doivent savoir que la Constitution dit que la liberté est le principe, la détention est l'exception. Mm-hmm. Et les articles 27 et 28 du Code de procédure pénale prévoient la même chose. Et on privilégie dans la procédure pénale la liberté. Et si on accorde à M. Chimanga la liberté, c'est la loi et c'est l'état des droits.
Merci.
On ne doit pas écarter ici les gens de défenseurs des droits humains, les autres pensent que quand on jette les gens en prison, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est la liberté aussi.
Merci beaucoup. On ne saura pas aller plus loin. Désolé, Maître Alidor, on ne saura pas vous accorder. Merci à Maître Edmond d'avoir accepté d'intervenir. Maître Alidor, on ne saura pas, mais on va vous accorder quand même en une phrase. Hein. Maître Alidor, vous êtes avec nous. avant de conclure oui, avec notre invité, Alain Bolodja.
Oui, bonjour, Gère. Bonjour à l'invité. En un mot, ce que je peux dire est que quand la liberté provisoire devient le principe, c'est là que ça frise un peu l'élan que la justice avait déjà pris. Donc, on doit comprendre que la justice n'est pas là seulement pour arrêter et par la suite détenir. Alors, à quoi bon arrêter dans ce cas-là? Parce que c'est un droit. Mais quand ce n'est pas un cas isolé, ça devient aujourd'hui, quand il s'agit des notables, des politiciens, on les interpelle la journée, la nuit, ils sont dehors. On les interpelle le matin, les soirs, ils sont dehors. Alors, on les fait comprendre que la justice congolaise est en train de rater une bonne
occasion de rétablir réellement l'état des droits. Merci beaucoup, maître Alidor, d'avoir appelé des Kananga et nous annonçons, nous profitons déjà, Inch'Allah, que dans les prochains jours, nous serons à Kananga dans le cadre d'une émission spéciale, 5 ans après le phénomène Kamuinansapu, comment la population se résilie-t-elle. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Alain Bolodja pour conclure cette émission. Alain Bolodja, vous avez suivi les uns les autres, une longue série des auditeurs, il y a beaucoup d'appréhension également, les points de vue qui se différencient. Qu'est-ce qu'on peut conclure, Alain Bolodja?
Non, mais on peut conclure que la justice n'est pas encore libre. La justice dépend de ceux du maire de la classe politique. Déjà, lorsqu'on arrête Didier Timanga, on n'a pas respecté ces principes-là de liberté et de la détention. Là, c'était déjà quelque chose qui augurait une orientation politique. Il n'a pas été arrêté pour le fait que le juge pouvait le condamner, mais il a été arrêté sur recommandation d'un groupe de gens. Et nous citons ici la présidente de la République. Elle-même a livré M. Didier Timanga alors qu'il n'avait pas d'éléments. En réalité, si nous sommes dans un état de droit, on ne va pas arrêter les gens pour qu'on soit applaudi du fait de leur avoir accordé la liberté provisoire. Et je crois que celui qui m'a précédé l'a dit. Deuxième élément, moi je considère pour ma part, je dois éviter de faire des amalgames. M. Tamere n'a pas été arrêté par la volonté de Félix Tshisekedi, dit-il, le membre de l'UDPS. C'est au regard de la configuration politique. On nous a dit que ça serait boutiqué par l'ancien ministre, justement parce que nous sommes dans le cadre de la coalition. Ça, ce n'est pas la volonté de M. Tshisekedi. Tous ceux qui ont été arrêtés par la justice, pendant que M. Tshisekedi a la plénitude du pouvoir, tous sont libérés. C'est même celui qui a été arrêté pendant qu'ils étaient ensemble avec M. Kabila. Pourquoi voulez-vous nous vendre tant? On le dit souvent, le tombeau est vide. Aucun proche de celui qui est né en prison. Mais allons voir de l'autre côté. Il y a le membre de l'opposition qui sont en prison pour avoir fait des déclarations. Il faut le reconnaître. Il ne suffit pas seulement de nous donner une justice cosmétique. Voilà, on arrête un directeur de cabinet. Après quelques temps, on le relâche. On arrête un conseiller. Après quelques temps, on le relâche.
Mais pour les cas d'espèce, on parle de la présence du corrupteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaignant.
Ça, ce sont de faux fuyants. Ce sont de faux fuyants.
Et le corrupteur, dans le cas d'espèce, est connu. C'est une entreprise qui évolue. Ça fait 5 ans, selon le témoignage d'Emmanuel, qui nous a appelé de Lubumbashi.
Non, mais bien évidemment, lorsqu'on vous cite, par exemple, le cas de le Fortuna Bisselele, il a été cité dans la vente d'un bien public de l'État.
Oui, ça n'engage que vous, Alain. Ça n'engage que vous.
Il y a des organes de presse qui l'ont cité. Ça existe. Il a été cité. Lui-même a réagi. Ce qui veut dire que la justice, aujourd'hui, c'est au service des partis politiques. Ce sont les mêmes conditions que nous avons tous utilisées pendant des années. Et c'est ce que nous voyons. Prenons au niveau de la présidence. Lorsqu'on avait arrêté, on avait pris la main dans les sacs, le chargé de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. On nous a rétabli le même discours. Il est où? Il a été relâché, non? Il n'est pas ici. Viens donner le mot. Il est où? Il a été relâché. Ce qui veut dire que M. Félix, c'est qu'il protège les siens contre les autres. Mais lorsqu'il s'agit des autres, c'est-à-dire les membres de l'opposition, c'est en ce moment-là qu'il s'érige en obstacle. Depuis qu'il a commencé à faire ces fantasmes-là, personne ne peut me citer un cas bien jugé et qui s'est retrouvé en prison. Personne.
Voilà.
Il n'y a personne pour voir qui est en prison.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Alain Bolodja. Nous rappelons que vous êtes le président de parti politique Debout les Jeunes. Hein, mais je crois que je ne maîtrise pas encore très bien. Si vous pouvez nous les rappeler, Alain. Lèvons-nous et bâtissons. Voilà, les battes. C'est ça, voilà, je me suis retrouvé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir suivi ce programme avec beaucoup d'attention. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs.